Vous écoutez
RMC. RMC, Charles Matin.
Et en ce lundi matin, pour bien attaquer la semaine, toute l'info, c'est en direct sur RMC, c'est votre journal, présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'alerte maximale, la France bascule en alerte Vigipirate, urgence, attentat, c'est le niveau le plus élevé après l'attentat qui a fait au moins 137 morts vendredi à Moscou. Sécurité renforcée ce matin, vous l'entendrez devant une quinzaine de collèges et lycées des Hauts-de-France, après de nouvelles menaces d'attaque ce week-end.
L'inquiétude des élèves, mais aussi de leurs parents. On va appeler le porte-parole de la paix par la Fédération de parents d'élèves, juste après votre journal, Quentin.
Et Florent Manaudou, le nageur qui répète sur RMC son envie d'être le porte-drapeau de la France cet été aux Jeux Olympiques.
La menace attentat à nouveau à son niveau maximal ce matin.
Oui, relevé hier soir au niveau urgence attentat. Donc après l'attaque revendiquée par l'État islamique qui a fait au moins 137 morts, c'était vendredi à Moscou en Russie. La décision a été prise hier soir lors d'un conseil de défense, Romain Cluzel.
L'un des principaux facteurs qui pousse le gouvernement à hausser son niveau d'alerte, c'est l'identité du groupe qui revendique l'attentat de Moscou, l'État islamique au Khorassan. Selon Matignon, cette branche de l'État islamique a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats déjoués récemment en Europe, notamment en France et en Allemagne. Reste à déterminer le nombre de troupes supplémentaires mobilisées. Une réunion se tient ce matin pour déterminer plus précisément la mise en place du dispositif de sécurité. La dernière fois que la France s'est retrouvée dans cette situation, c'était en octobre dernier, après l'attentat d'Arras et l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Le niveau urgence attentat avait permis, par exemple, de renforcer les patrouilles sentinelles avec jusqu'à 7000 soldats supplémentaires. Cette alerte était restée en place pendant 3 mois jusqu'en janvier.
C'était une journée de deuil national hier en Russie. Des milliers de Russes sont allés se recueillir devant la salle de concert où a eu lieu l'attaque. Dans la soirée, les 4 assaillants présumés ont été placés en détention provisoire pour au moins 2 mois. Le Kremlin assure qu'ils ont un lien avec l'Ukraine en plein conflit avec les Ukrainiens. Ce que demandent d'ailleurs les Ukrainiens, ce que contredisent aussi les Américains. Commentaire politique, tiens, ce matin en France, du patron de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
Je pense que cette attaque islamiste devrait faire revenir les dirigeants occidentaux et le dirigeant russe aussi, et les Ukrainiens, dans un sens des priorités. Comment peut-on aller vers une guerre contre la Russie? Comment peut-on ne pas faire la paix? Et il y a des possibilités de paix. Il y a un moment dans une guerre, il faut savoir en finir. On peut faire la paix avec un cessez-le-feu, des troupes de l'ONU, un retrait des troupes russes en échange d'une démilitarisation de l'Ukraine et d'une zone neutre, faire de l'Ukraine une zone neutre.
Et c'est dans ce contexte que des établissements ont encore été piratés et menacés d'attaques ce week-end. Une quinzaine, cette fois dans les Hauts-de-France, via des messageries internes des élèves comme à Amiens, où la sécurité sera renforcée ce matin pour la reprise des cours, nous dit sur place Lucas Lauber.
Les écouteurs dans les oreilles, Fidelio, 14 ans, marche devant le collège Rosa Parks. Il est en classe de 4e ici. Ce sont ses camarades qui l'ont averti des menaces d'attentat sur la messagerie interne.
L'UNT a été fermé vendredi soir et puis on n'a aucune nouvelle.
Alors Fidelio, on a discuté tout le week-end avec ses amis pour se rassurer, mais il reste inquiet.
Tout ça, ça fait peur quand même, parce que c'est des menaces sur mon collège. On ne sait pas ce qui va se passer. Je préfère avoir des nouvelles quand même pour être sûr de ce qui s'est passé. Et puis comme ça, on peut aller au collège en sécurité.
De l'autre côté d'Amiens, le collège Sache Bien, lui aussi, a reçu des menaces. Avec le plan Vigipirate, les sacs étaient déjà contrôlés à l'entrée, mais pour Louis, collégien ici, ça ne suffit pas pour rassurer.
Avec les menaces qui ont été faites, on ne sait pas à quoi s'attendre du coup. Je sais qu'ils fouillent pas les sacs, ils font que regarder à l'intérieur.
Des inquiétudes et des menaces que prend au sérieux Roland Moucher-Blaiseau, le préfet de la Somme.
À la fois, il y aura des équipes mobiles de sécurité dans ces établissements. Bien sûr, les forces de police et les forces de gendarmerie feront des patrouilles et seront à l'entrée des établissements.
En plus de ce dispositif, la préfecture de la Somme annonce ouvrir des cellules d'écoute pour ceux qui ont été choqués par ces menaces.
Les premiers résultats de la présidentielle au Sénégal, résultats scrutés de près après 3 ans de troubles politiques dans ce pays d'Afrique, ils donnent le candidat anti-système en tête, félicité d'ailleurs par 5 des 17 candidats à cette élection. Le camp du pouvoir assure qu'il y aura besoin d'un second tour. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est la promesse du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il le dit ce matin dans une interview au journal Sud-Ouest, malgré le déficit public qui se creuse. La ville de Lyon veut sauver ses bouchons. La mairie écolo veut réguler l'installation de fast-food dans son centre-ville pour privilégier la bonne bouffe plutôt que la malbouffe et défendre ainsi le patrimoine local, Vincent Chevalier.
En plein cœur de la presqu'île de Lyon, la rue de la République, artère la plus fréquentée de la ville avec son lot de fast-food.
Oui, il y en a quand même pas mal parce que là on a le McDo, là-bas on a, là, on a Five Guys, même là-bas on a encore un McDo.
Sans compter les kebabs et autres tacos du quartier, lieu fréquenté par Raphaël, 15 ans, et ses amis.
C'est arrangeant pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens et puis c'est bon et c'est rapide.
Alors réglementer leur installation, pourquoi pas, même si toutes les enseignes ne se valent pas selon Théo.
Des petits fast-food de personnes indépendantes, ça peut être quand même pas mal d'en rajouter, donc... Pourquoi pas, tout dépend de quel fast-food.
Pour d'autres habitants, il y a urgence. Jean-Richard habite la presqu'île depuis 10 ans. Il a vu son quartier changer et redoute la suite.
Si ça continue dans le même sens, bientôt il n'y aura plus de bouchons, il n'y aura plus rien, parce que bon, les gros groupes vont tout prendre. Hein.
Cette prise de position de la mairie est une très bonne nouvelle pour l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration du Rhône. Un travail important doit être fait.
Le premier lieu, ça va être le financier.
Thibaut Salva, président de la branche restauration.
Les niveaux de loyer demandés sont exorbitants et ça va être le nerf de la guerre.
La ville de Lyon veut organiser d'ici l'automne une concertation des acteurs politiques et économiques pour trouver des solutions.
Et ça vous divise. Depuis ce matin, depuis 5h au 32-16, faut-il limiter, voire interdire l'implantation de nouveaux fast-food dans les centres-villes? Il y a ce débat à Lyon, mais en fait ça concerne toute la France. Vous venez témoigner ce matin, vous connaissez le chemin, c'est le 32-16.
Le propriétaire du club de foot d'Angers sera de retour devant la justice toute la semaine. Déjà condamné à 2 ans de prison pour des agressions sexuelles sur 6 femmes, c'était vendredi. Saïd Chaban est rejugé à partir d'aujourd'hui avec 4 autres prévenus à Bobigny pour blanchiment, cette fois dans une affaire de transactions financières douteuses. Il y a des transferts à Nicolas Pelletier.
Dans ce dossier, Saïd Chaban aurait versé des sommes d'argent lors de transferts de footballeurs à des hommes qui se prétendent agents de joueurs. Pourtant, plusieurs d'entre eux ne possèdent pas la fameuse licence pour exercer la profession en France. Chaban est donc soupçonné d'avoir utilisé ce réseau illégal pour recruter des joueurs au SCO d'Angers. Pendant des mois, les enquêteurs ont épluché les facturations pour remonter les flux financiers. Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient aussi reçu la visite des policiers du service central des courses et jeux. L'homme fort du SCO d'Angers avait eu 36 heures pour s'expliquer face aux enquêteurs. Il nie les accusations. Selon nos informations, la justice a par exemple saisi plus de 370 000 euros sur des comptes bancaires et une maison d'une valeur de 200 000 euros.
Florent Manaudou, je vous le disais, il est ouvertement candidat pour être le porte-drapeau de la France aux Jeux Olympiques. Cet été, le nageur a fait le plein de confiance en gagnant encore sur 50 mètres nage libre. Hier, c'était dans les Yvelines. Et dans la foulée, eh bien, il s'est confié sur les JO. C'était dans l'émission de Marion Bartoli sur RMC.
Je serais très fier de pouvoir l'idée l'équipe de France, ne serait-ce que sur la cérémonie d'ouverture qui serait unique. C'est quelque chose qui me fait rêver parce que quand je vois les porte-drapeaux précédents, c'est des gens qui ont été des inspirations pour moi. Donc j'estime que si jamais un jour je suis porte-drapeau, ça voudra dire que je suis peut-être aussi une inspiration pour des jeunes.
Ouais, puis on a vécu le match de la saison en top 14 de rugby hier soir. Bordeaux qui a gagné sur le fil, 31-28 contre Toulouse, 9 essais. C'était le retour d'Antoine Dupont pour les Toulousains. Les Bordelais remontent à la 3e place du classement.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour notre Rochelais, Quentin Vinet?
C'est très très serré. La Rochelle, on a perdu.
Vrai débat. Quand on est Rochelais, quand on regarde Bordeaux-Toulouse, qu'est-ce qu'on en pense? On est pour qui?
Ah, clairement, moi j'étais pour Toulouse. Je préfère que devant ça aille vite plutôt que voilà. Mes concurrents directs, pour l'instant, c'est plus Bordeaux.
Voilà. Quentin qui vous dit tout dans son journal.
Il y avait une ambiance de fou à Bordeaux. Ouais. Le match Mutual Atlantique qui était plein, ça avait l'air dingue.